conduit à un réveil spirituel. Et lors de ce réveil, comme dans tous les réveils, on lit la Bible. Et puis on se repent. Il y a des confessions, des belles confessions. Et on repart d'un bon pied dans l'alliance avec Dieu. Et au chapitre 10, ils prennent des engagements solennels qui vont en particulier dans trois domaines qu'ils avaient négligés. Le mariage, le respect du sabbat et l'entretien du temple. Et puis au chapitre 12, que nous n'avons pas vu, mais que vous pouvez relire à la maison, ils font la fête. Ils rendent grâce et gloire à Dieu pour ce qui a été fait. Ils font une grande teuf. Un grand moment d'adoration et de louange parce qu'il y a de la place pour la fête dans la vie chrétienne. Musiciens, ils sont déchaînés. Les musiciens, lors de cette fête, sont déchaînés avec leurs chalumeaux et leurs tambourins. Ils mettent le feu. Et au verset 43 du chapitre 12, il y a cette phrase « Et l'on entendait toute leur joie. On entendait de loin la joie de Jérusalem. » Un témoignage de la fête, de la joie de la restauration, de la reconstruction, de l'engagement envers Dieu. Amen, alléluia, les murailles sont reconstruites, les gens ont retrouvé le goût de vivre avec Dieu, tout est bien qui finit bien. Néhémie se maria avec la fille de l'architecte et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais hélas, ah non, c'est pas encore. Ouais. Néhémie n'épouse personne dans l'histoire. Ça aurait été difficile parce qu'on pense qu'il était eunuque, puisqu'il était à la cour du roi. Et en plus, donc, il doit rentrer à Suse chez son employeur. Son mandat de gouverneur de Judée expire. Le temps a passé vite, mais il a passé quand même 12 ans à Jérusalem. Les premiers 12 premiers chapitres ne parlent que des premiers mois, mais il reste 12 ans. Et il gouverne, il surveille, il dirige, il équipe les responsables, mais il doit rentrer chez Artaxerxès comme goûteur de vin, et il doit retourner dans sa cave à vin. Mais il revient à Jérusalem. Un an après, c'est le retour du héros, le retour du Jedi, entre mercredi et vendredi. Et c'est pas un retour victorieux, c'est un retour décevant. Et il vit le mal qu'avait fait Eliashib, le sacrificateur. Quand Néhémie rentre, il voit le mal, et pas seulement celui d'Eliashib, mais Néhémie se rend compte d'une multitude de petites dérives individuelles et communautaires dans les domaines, justement, où le peuple, un ou deux ans avant, avait pris des engagements solennels. Et on est loin du conte de fées. On est dans la réalité brute et brutale. Il n'a pas fallu un an pour que tout dérape. Et il faut parfois très peu de temps pour que les choses dérapent dans la vie. Et c'est la première idée force de ce chapitre 13 de Néhémie, à savoir que dans notre vie, comme dans l'histoire du peuple d'Israël, rien n'est jamais acquis. Personne, ni un peuple, ni une église, ni une famille, ni un couple, ni même un individu, ne peut se reposer sur ses lauriers ou sur son passé, aussi prestigieux soit-il. Une conversion spectaculaire, un baptême absolument magnifique, un réveil spirituel absolument miraculeux, un mariage parti sur d'excellentes bases, ne sont pas des garanties pour l'avenir. Le passé ne garantit pas l'avenir, c'est le présent qui compte, c'est ce que l'on fait aujourd'hui de sa vie qui sera déterminant pour l'avenir. Alors, que faut-il faire aujourd'hui, par rapport à ce passé présent où l'on a vécu des moments forts, où on a pris des engagements, eh bien, il faudrait garder le cap. Et c'est le titre de la prédication sur ce chapitre 13 de Néhémie. Et en définitive, ce chapitre 13 est peut-être très bien placé, parce qu'il touche à la réalité de la vie, de nos vies, qui ne sont pas des success stories ou des histoires à succès. Et on a tout à gagner à entendre parler de maintenir le cap, de garder le cap. Je ne sais pas si vous avez fait de la voile. Moi, j'en ai fait un petit peu. Et la première chose qu'on te dit quand tu apprends à faire de la voile, c'est de fixer un cap. Si tu es dans un lac ou sur un lac, il faut fixer un arbre ou une maison au bord du lac. Si tu es en mer, peut-être fixer un parasol sur la plage. Mais si on n'a pas de cap, on dérive sans le savoir. Et ça m'est arrivé avec ma sœur il y a 40 ans. Oh, flûte. Il y avait une quinzaine d'années, ma sœur 17 ans, on est parti en bateau à voile en 420. Et le vent était bon, moi j'étais à la barre. Ma sœur était en trapèze même sur le bord. Puis le vent, on n'a pas fixé de cap. Puis le vent s'est levé un peu, on avait beaucoup de plaisir. Et on s'est dit, on va aller tout droit, mais on ne va jamais tout droit. Et à un moment, on s'est trouvé très mal. On avait dérivé de 3 ou 4 kilomètres par rapport au port. Et le vent soufflait dans la mauvaise direction. Pas possible de rentrer, donc on s'est échoué sur une petite crique et on est venu nous chercher en Zodiac. La honte pour moi. Marin d'eau douce. Honte pour moi parce que je n'avais pas fixé de cap et on dérive. Et quand on prend la barre d'un 420 ou de tout autre navire, il faut savoir garder le cap. Et la première chose à faire pour garder le cap, c'est se rendre compte des dérives possibles. Et il faut les observer, ces dérives. Et il faut les observer de près parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes, elles opèrent graduellement, ce sont des petits degrés perdus les uns après les autres. Et c'est très subtil, une dérive dans la vie. Et la première des dérives que Néhémie observe à Jérusalem a commencé très, très petitement par des liens familiaux. Que s'est-il passé ? Éliashib, le sacrificateur, a juste installé quelqu'un de sa famille dans une chambre du temple. Jusque-là, rien de très grave. Sauf que ce gars de la famille d'Eliashib s'appelle Tobia. Tobia ? Vous avez dit Tobia ? Mais Tobia, c'est qui Tobia ? Vous qui avez suivi la série sur Néhémie depuis le début, vous savez que Tobia, c'est le deuxième ennemi public, l'ennemi public numéro 2, après Sambala, Tobia, l'ammonite. C'est lui qui a comparé les murailles, qui a parlé du renard qui allait détruire ces murailles que voulait reconstruire Néhémie. C'est lui qui a voulu piéger Néhémie et qui lui envoie des lettres de menace. Tobia ! Et c'est Tobia qu'Eliashib installe dans une chambre du temple. Et on enlève pour lui les objets du culte pour lui faire de la place. On l'installe confortablement avec vue sur le temple. Et donc Néhémie dit « Je le prie très mal ». Néhémie se rend compte de la dérive ou du mal qu'a fait Eliashib. Comment avez-vous pu ? Et c'est l'illustration parfaite de la dérive qui s'installe sournoisement dans la vie. Ça commence par un petit lien familial, un manque de fermeté dans tel ou tel domaine, qui se termine par une occupation de terrain évidente, scandaleuse. Le péché s'installe, le mal, la dérive s'installe sournoisement, mais prend place certainement. Alors pourquoi est-ce si grave que Tobia ait une chambre dans le temple ? Ce n'est pas juste une question de bail ou de location, c'est une question de profanation. Alors ce terme qui paraît un peu dépassé, mais qui veut dire encore quelque chose aujourd'hui, même si on n'a plus de temple, ni d'objet de culte, profaner, ça veut dire tenir pour profane quelque chose de sacré, c'est-à-dire tenir pour banal quelque chose qui est important. Ça veut dire tenir pour secondaire quelque chose qui est essentiel. Vous savez, quelque chose d'important qui est porteur de sens, de le considérer comme périphérique ou secondaire. En clair, on s'en fiche. Et les autres dérives sont du même acabit pour reprendre Néhémie. Ils relèvent aussi de la profanation et on pourrait s'attarder sur chacun d'eux, mais on n'en a pas le temps. Juste dire que nous ne pouvons pas faire du copier-coller sur les questions de l'entretien du temple, du sabbat ou du mariage. Ce sont des questions qui ont bougé depuis Jésus et le temps de la grâce. Mais le principe demeure de ne pas considérer comme insignifiant ou sans importance des choses qui le sont aux yeux de Dieu et pour lesquelles on s'est engagé devant lui. Alors, en ce début de 2019, il se peut que nous soyons en pleine dérive, que nous ayons perdu graduellement, insidieusement du cap. On n'a pas échoué sur la plage, mais on n'est peut-être pas loin du naufrage. Mais peut-être que ce chapitre est pour moi ce matin, pour vous ce matin, pour nous aider à nous rendre compte, peut-être en ce début d'année, de nos petites dérives. nos dérives personnelles dans notre vie avec Dieu. Mais Néhémie ne va pas en rester là à observer les dérives, il va avoir une réaction, et c'est le deuxième point, après avoir observé les dérives, il va redresser la barre. Et oui, devant la gravité de la situation, on peut imaginer la déception de Néhémie. J'ai travaillé 12 ans parmi ces gens, j'ai formé des responsables, j'ai nommé, je me suis investi, je pars un an et après, c'est le désastre. Et la réaction normale aurait été, écoutez, les gars, maintenant, débrouillez-vous tout seul. Moi, j'ai déjà donné. Hein, cette phrase, j'ai déjà donné. Et il n'y aurait personne pour lui jeter la pierre, à Néhémie. Mais c'est sans compter sur la passion de Néhémie, la passion de Néhémie pour Dieu, la passion pour les gens, et il va réagir, il va s'investir à nouveau. Mais ce n'est pas si facile que ça, même si on s'appelle Néhémie. Et dans ce chapitre 13, on voit qu'il se tourne très souvent vers Dieu avec cette expression « Souviens-toi de moi, ô Dieu, et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour son culte. Souviens-toi de moi. » Et ce n'est pas un cri, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un cri d'autosatisfaction ou d'autoproclamation, j'ai quand même besoin de récompense. Non, quand on fait appel au souvenir de Dieu, on fait appel, et Néhémie fait appel à l'intervention de Dieu. Souviens-toi de, interviens dans ma vie. Donne-moi la force, le courage, la grâce de m'investir tout à nouveau. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Et fort de cet appel à l'intervention souveraine de Dieu, Néhémie va réagir par rapport aux dérives et il va le faire violemment. Il va redresser la barre, mais avec un fameux coup de barre. Alors la violence du coup de barre dépend évidemment de la gravité de la dérive, mais c'est sûr qu'il faut parfois redresser en douceur, graduellement. Mais quand la situation est grave, quand on est mal embarqué, il faut savoir réagir. J'utilise le mot violemment et je vous expliquerai pourquoi. Jésus va montrer l'exemple dans le temple, en prenant le fouet dans le temple de Jérusalem, en renversant les tables de changeurs de monnaie, une scène d'une violence inouïe, interdit aux moins de 13 ans, âme sensible, s'abstenir. D'où Jésus ? Jésus serait-il violent ? Oui, Jésus peut devenir violent quand il voit un temple profané, négligé, ridiculisé. Quand il y a profanation, Jésus peut devenir violent. Ôtez ceci d'ici, c'est la maison de mon Père, n'en faites pas une maison de commerce. Ne banalisez pas la maison de Dieu. Et la parole de Dieu ne met pas ça sur le compte du penchant colérique de Jésus, pas du tout. Elle met ça sur la passion pour la foi. Sa passion de Jésus pour Dieu et contre l'hypocrisie. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi comme un feu qui me consume. » Et c'est ça qui motive Jésus. Et c'est ça qui motive Néhémie, ce feu, la passion pour Dieu. Et je vous lis le verset 8. Et j'en fus très irrité, et je jetais hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia. Ça fait penser à ces films, il y en a eu plusieurs, où on voit la femme au premier étage qui veut montrer qu'elle n'apprécie plus son homme, qui lui envoie tous ses habits par la fenêtre et ses valises. Dans Miss Doubtfire, je crois que... Le pauvre. Alors, je ne vous le conseille pas, mesdames, ça ne s'impose peut-être pas, mais pour Néhémie, ça s'imposait. Toutes les affaires de Tobia par-dessus la fenêtre, pas de demi-mesure. Néhémie n'essaye pas de garder l'amitié de Tobia ou d'Eliashib, c'est trop grave. Et pour le sabbat, au verset 17, Néhémie va prendre lui aussi des mesures radicales. Il va fermer les portes de la ville et poster des gardes pour le sabbat. Et des dizaines de marchands vont dormir dehors, une nuit dehors. Ça, c'est pas une mesure très populaire. Et pour les mariages mixtes, Néhémie va mettre le paquet, il ne va pas couper les cheveux en quatre, il va les arracher, les cheveux. Je vous lis parce que c'est quand même particulier. « Je pris ses compatriotes à partie et j'appelais la malédiction sur eux, je bâtis même quelques-uns, pas tous, et je leur arrachais les cheveux. Puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, etc. Néhémie tire les cheveux. Ça me rappelle ma maman qui me tirait les cheveux quand je ne voulais pas finir mon yaourt. Ma mère était une sainte femme, mais je n'aimais pas quand elle me tirait les cheveux. Donc on peut sourire et être un peu gêné quand on voit que Néhémie, non seulement les coupe, mais les arrache. Et on se dit qu'il lui manquerait juste la barbe pour faire de Néhémie le parfait intégriste. Et on se dit qu'il va un peu loin. Alors, quelques remarques. Il faut savoir que la Bible raconte des événements. Et là, Néhémie écrit ses mémoires. Cela ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est digne d'approbation. Et surtout, digne d'imitation. On n'est pas avec la parole de Dieu dans le copier-coller. Ce serait aplatir le texte que de dire que si Néhémie l'a fait, je peux moi aussi me crêper le chignon avec le premier venu qui ne pense pas comme moi. Ou jeter les habits de mon gendre par la fenêtre parce qu'il ne vient pas à l'église. Ce sont des interprétations aplatissantes qui nivellent le texte biblique. Et il faut toujours le replacer dans son contexte historique et théologique. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec des mœurs et des comportements un peu plus rugueux. Nous sommes aussi sous l'ancienne alliance, avec l'importance de la loi et l'importance de la notion de peuple identifiable et qui doit se protéger des autres peuples. Nous sommes aujourd'hui sous la grâce en Jésus-Christ. Non plus sous la loi, mais sous la grâce. Et le peuple de Dieu, c'est son Église qui est faite de toutes les nations. Il y a continuité entre les deux testaments, mais il y a aussi rupture en Jésus-Christ. Mais le principe d'une réponse radicale à nos compromissions, à nos petites dérives personnelles, demeure. Dans la lutte contre le mal qui vient sournoisement, subtilement, et qui nous fait dériver, et qui fait parfois dériver toute une vie, il faut réagir radicalement, donner des fameux coups de barre. Et tous les termes du Nouveau Testament, en ce qui concerne la lutte contre le péché, s'accordent en fait avec le vocabulaire de l'Ancien Testament. Jésus parle d'arracher, de couper, de jeter. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, un scandalone, un scandale, eh bien, arrache-le, sois radical, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, eh bien, coupe-la. Car il vaut mieux entrer manchot dans le royaume des cieux qu'avec ses deux mains et rentrer dans la géhenne. C'est radical, Jésus est radical. Et les apôtres, dans le Nouveau Testament, parlent de repousser, de faire mourir, de combattre, d'expulser. C'est le même vocabulaire que dans Néhémie, sous une forme un peu différente. Il faut être intransigeant qui concerne le maintien du cap de la vie et jeter toutes les forces, toutes ses forces, toute son énergie dans la lutte contre la dérive. Jeter, on va dire, toute sa violence. Et il y a un texte qui m'a toujours surpris, c'est Jésus qui dit « Le royaume de Dieu est présent ou a fait irruption avec violence dans le monde et ce sont les violents qui s'en emparent. » Oui, mais non, Jésus, c'était un non-violent quand même. Il n'incite pas à la violence. Il y a seulement quelques années que j'ai compris. Le royaume de Dieu, qui est notre cap, cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit Jésus. Eh bien, appartient à ceux qui savent se faire violence pour maintenir le cap, ce royaume de Dieu dans leur vie. Il ne s'agit pas d'utiliser la violence contre d'autres personnes. Non, on est appelé à être des artisans de paix. Mais de se faire violence pour redresser la barre dans notre vie, si dérive il y a. En ce qui nous concerne, pas de quartier. Néhémie et Jésus nous appellent à la radicalité pour redresser certaines habitudes qui se sont installées sournoisement et qui grignotent notre consécration à Dieu, pour repousser quelques profanations, des profanations toutes personnelles à nous. Oh, je m'en fiche, que l'on dit, que l'on répète, qui ne sont pas bien graves mais qui entament notre foi, pour se défaire de quelques solutions qui nous facilitent la vie mais qui pourrissent nos relations. Oui, on a besoin d'être peut-être un peu plus radicaux dans notre vie. Je vous cite des exemples. Alors, les exemples, ils valent ce qu'ils valent, mais il y a quelques années, il y a très longtemps, c'est du temps de la TV, de la télévision, enfin elle existe encore, mais la télévision qui avait le sol, qui avait le monopole. Un missionnaire américain en Belgique, là, il m'a dit qu'il avait coupé le câble de sa télé, comme ça, parce qu'elle lui prenait trop de temps. C'était radical, moi ça m'a coupé la chic, moi, d'entendre ça. Et j'ai un ami, un planteur d'église dans les années 80, quelqu'un que vous connaissez bien, enfin certains en tout cas, Gilles Classe. C'est un ami à moi, j'ai vu sa conversion. Il est passé ici en été pour remplacer Emmanuel Alvarez plusieurs fois, plusieurs étés. Eh bien lui, il m'a raconté qu'il avait voulu se débarrasser de... arrêter de fumer et se débarrasser de sa cartouche... de paquets de cigarettes, hein, vous savez, les grandes cartouches, là, ça coûtait 1000 francs belges à l'époque. Et il l'a jeté. Le problème, c'est que la concierge a cru à une erreur et lui a remonté sa cartouche de cigarette. Elle a dit, Monsieur Classe, vous avez jeté par mégarde votre cartouche de cigarette, je vous la rapporte. Mon ami Marc Oxenmeyer, témoin de mon mariage, a jeté tous ses disques de rock. J'ai trouvé que c'était très dommage parce qu'il y avait des bons disques, mais c'était des rocks durs, du rock dur. Et pour lui, ça ne lui allait pas. Et je ne veux pas tomber dans le légalisme. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de tout cela, mais pour lui, c'était important et il l'a fait. C'était un peu radical, mais c'était nécessaire. Je l'ai dit, le problème avec les exemples, c'est qu'ils sont bons pour les uns et ils ne le sont pas automatiquement pour les autres. Et chacun aura dans sa vie des domaines de dérive possibles, et c'est à chacun de peut-être les percevoir, les désigner, mais aussi de redresser par la grâce de Dieu la barre de sa vie personnelle. Peut-être qu'il serait bon d'en parler avec quelqu'un de ces petites dérives, quelqu'un de confiance, qui pourra vous demander dans quelques mois la suite de l'histoire. Mais en tout cas, et moi, c'est mon souhait aussi pour moi, c'est qu'en 2019, nous soyons radicaux avec nous-mêmes, afin de marcher non pas dans l'intégrisme, mais dans l'intégrité avec Dieu. Et pour conclure, je voudrais simplement revenir sur cette phrase qui revient plusieurs fois dans ce chapitre, où Néhémie dit « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ». Et ce qui signifie, je vous le rappelle, Seigneur intervient dans ma vie. Et j'imagine que si toutes nos histoires commençaient ou terminaient ou recommençaient comme cela, Seigneur, souviens-toi favorablement de nous, ô notre Dieu. Interviens dans notre vie en 2019. C'est notre prière. Amen. Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que je suis me vient de toi. Toute notre identité est en toi. Et Seigneur, nous voulons garder ce cap de maintenir notre identité en toi. Maintenir notre service en toi, maintenir le sens de notre vie en toi. Et Seigneur, tu connais les dérives possibles de chacun. Tu connais ce péché qui est de rater la cible qui est en nous, toutes ces diversions dont on a déjà parlé aussi pour le livre de Néhémie, toutes ces dérives. Seigneur, donne-nous de les examiner, de les percevoir. Et on prend quelques instants chacun pour peut-être se demander dans quel domaine faudrait-il redresser la barre? Et nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne, qui nous pardonne et qui nous, par le Saint-Esprit, nous inspire pour, avec toi, redresser la barre de notre vie, garder le cap d'une vie pour toi, en toi, sous ta grâce. Merci Seigneur d'agir puissamment par ton Saint-Esprit en nous et merci pour cette année nouvelle que tu nous proposes, que tu nous ouvres. Merci pour ta fidélité. Et nous voulons aussi proclamer la nôtre, te suivre chaque jour. Donne-nous de nous faire violence pour entrer de plein pied dans ton royaume. Au nom de Jésus, celui qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Amen.